les mules, de cette extraordinaire caravane d'étoffes, de rubis et de saphirs, gardée par 1000 mamelouks beaux comme des lunes. Très ironiquement, la musique exagère, force le trait. On entend le bâton des muletiers frapper les ânes à chaque mesure. Figuralisme, ma foi, assez ridicule, s'il n'était justement pas drôle, exagéré, fait pour duper les marchands et le sultan. Il faut qu'on l'entende, cette caravane, pour qu'ils y croient. Et, miracle de la musique autant que de la parole, ils y croient. Je suppose que Reynaldo Hahn avait lu, tout comme son ami Marcel Proust, Les Nuits dans la nouvelle traduction de Marbrus. Tous deux étaient à la première de Marouf en 1914, en tout cas. Hahn salue la partition de son ancien camarade du conservatoire dans une importante revue spécialisée. Il note la qualité de la musique, dont la hardiesse n'altère jamais la pureté. Il en remarque la finesse, la fantaisie, l'intelligence, et surtout l'absence de vulgarité dans la justesse du sens oriental. Il salue en fait l'apparition d'un orientalisme à la française qui soit plus proche de Debussy que des débauches de violence et de sensualité des Russes. Autant de culture musicale, autant d'Orient, autant d'exotisme. Je me demande d'ailleurs s'il faut que j'étende l'article, avec tous ces Orients superposés, à une couche de plus, celle de Roberto Alagna au Maroc. Après tout, cela donnerait un côté un peu magazine, une contribution, ma foi, plutôt sérieuse, et puis cela ferait rire Sarah, cette image du sémillant ténor européen en Orient au XXIe siècle. Cette vidéo est vraiment impayable. Dans un festival à Fès, une version arabe, avec oud et kanoun, d'À travers le désert, l'air de la caravane de Rabot. On imagine d'ici les bonnes intentions des organisateurs, la parodie désamorcée, la caravane retrouvant le vrai désert de l'authentique, des instruments et du décor authentique. Et l'enfer étant, comme on sait, pavé de bonnes intentions, tout tombe à plat. L'oud ne sert à rien. Le kanoun, peu à l'aise dans la progression harmonique de Rabot, lâche juste des virgules convenues dans les silences de la voix. Alagna, Angela Bas-Blanche, chante comme sur la scène de l'opéra comique, mais un micro à la main. Les percussions, cymbales frottées et clés entrechoquées, essayent de meubler par tous les moyens le grand, l'immense vide découvert par cette mascarade. Le joueur de kanoun semble souffrir le martyre en entendant une si mauvaise musique. Seul Alagna, le magnifique, paraît ne s'apercevoir de rien. Tout à ses grands gestes et ses chameliers. Quelle rigolade, mon Dieu. Si Rabot entendait ça, il mourrait une seconde fois. C'est peut-être la punition, d'ailleurs, de Rabot. Le destin le punit pour son comportement pendant la Seconde Guerre mondiale, son philo-nazisme, son empressement à dénoncer les professeurs juifs du conservatoire de musique dont il était le directeur. Heureusement, son successeur en 1943 sera plus éclairé, plus courageux, et essaiera de sauver ses élèves plutôt que de les remettre à l'occupant. Henri Rabot rejoint la longue liste des orientalistes, artistes ou scientifiques, qui ont collaboré directement ou indirectement avec le régime nazi. Me faut-il insister sur ce moment de sa vie ? Épisode bien plus tardif que la composition de Marouf en 1914, n'en sait rien. Tout de même, le compositeur dirigera lui-même à l'opéra la centième de Marouf, Savetier du Caire, le 4 avril 1943, jour d'un terrifiant bombardement qui détruisit les usines Renault et fit plusieurs centaines de morts dans l'ouest parisien. Devant un parterre d'uniformes allemands et de vichistes notoires. Au printemps 43, alors qu'on se battait encore en Tunisie mais qu'on savait que l'Afrika Korps et Rommel étaient vaincus, que les espoirs nazis de conquérir l'Égypte étaient bien loin, est-ce que Marouf, Savetier du Caire, prenait un sens spécial, un pied de nez à l'occupant allemand ? Sans doute pas.